Extrait de Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions, Emma Goldman. À mon arrivée à New York, le 15 août 1889, j'avais 20 ans. J'avais laissé derrière moi ma vie d'avant, abandonnée comme un vieux vêtement tout usé. Un nouveau monde s'offrait à moi, étrange et terrifiant, mais j'étais jeune, en bonne santé, et j'avais un idéal. Quel que soit l'avenir qui m'était réservé, j'étais décidée à l'affronter coûte que coûte. Comme je me souviens de cette journée, c'était un dimanche. Partie de Rochester par le train du West Shore, le moins cher et le seul que je pouvais me payer, j'arrivais à 8h du matin à Weehawken. De là, j'atteignis la ville de New York par le ferry. Je n'y connaissais aucun ami, mais j'avais 3 adresses. Celle d'une tante mariée, celle d'un jeune étudiant en médecine, rencontré à New Haven un an plus tôt lorsque je travaillais dans une fabrique de corsets, et celle du journal anarchiste allemand Die Freiheit, édité par Johann Most. Je ne possédais en tout et pour tout que 5 dollars et un petit bagage à main. Ma machine à coudre, qui devait contribuer à assurer mon indépendance, resta à la consigne. Inconsciente de la distance à parcourir entre la 42e rue Ouest et le quartier du Bowery, où vivait ma tante, ainsi que de la chaleur suffocante qui s'abat sur New York au mois d'août, je décidai de marcher. Pour qui venait d'arriver, la grande ville paraissait bien déroutante et infiniment grande, froide et hostile. Après maintes tours et détours, suivant des indications souvent erronées et hésitant fréquemment au carrefour, déconcerté, je parvins au bout de 3 heures à la galerie de photographie de ma tante et de mon oncle. La fatigue et la chaleur aidant, je ne remarquais pas d'emblée la consternation des membres de ma famille devant mon arrivée inattendue. On m'invita à me mettre à l'aise. On me servit un petit déjeuner et l'on me pressa de questions. Pourquoi étais-je venue à New York? Est-ce que j'avais définitivement rompu avec mon mari? Est-ce que j'avais de l'argent? Qu'avais-je l'intention de faire? Bien sûr que je pouvais rester chez eux. Sinon, où pourrais-tu aller, toi, une jeune femme seule à New York? Mais je devais chercher immédiatement du travail. Les affaires marchaient mal et la vie était chère. J'écoutais, frappée de stupeur. J'étais trop épuisée par ma nuit de voyage, par la longue marche, par la chaleur du soleil qui commençait déjà à cogner dur. Leur voix semblait résonner au loin, tel un bourdonnement de mouches, et me donnait envie de dormir. Je fis un effort pour me ressaisir. Je leur assurais que je n'étais pas venue pour abuser de leur hospitalité. Un ami qui vivait dans Henry Street m'attendait et allait m'héberger. Je n'avais qu'une envie, m'éloigner de ces voix criardes, glaciales. Je laissai mon sac et partis. L'ami que j'avais inventé afin d'échapper à l'hospitalité de mes parents n'était qu'une vague connaissance. Un jeune anarchiste du nom de H. Solotaroff, que j'avais entendu une fois donner une conférence à New Haven. Je me mis alors à sa recherche. Au bout d'un certain temps, je finis par découvrir l'endroit où je croyais qu'il vivait. Mais il n'y était plus. Le concierge qui m'accueillit, d'abord très sèchement, dut remarquer mon désespoir. Il me dit qu'il allait chercher l'adresse que la famille avait laissée au moment de son déménagement. Il revint peu de temps après, avec le nom de la rue, mais sans numéro. Que faire? Comment trouver Solotaroff dans cette ville immense? Je décidai de m'arrêter à chaque immeuble, en commençant par un côté de la rue, pour passer ensuite à l'autre. À force de grimper 6 étages et de les redescendre, j'avais des élancements dans la tête, mes pieds n'en pouvaient plus. La journée touchait à sa fin. Alors que j'étais sur le point d'abandonner mes recherches, je tombai sur lui, au 5e étage d'un immeuble locatif, grouillant de monde, dans Montgomery Street. Bien que notre première rencontre remontât à 1 an, Solotaroff ne m'avait pas oublié. Son accueil fut sympathique et chaleureux, comme celui d'un vieil ami. Il me dit qu'il partageait ce petit appartement avec ses parents et son jeune frère, mais que je pouvais prendre sa chambre. Il resterait chez un camarade d'études pendant quelques nuits. Il m'assura que je n'aurais aucune difficulté à trouver un logement. D'ailleurs, il connaissait deux sœurs qui vivaient avec leur père dans un appartement de deux pièces. Elles cherchaient une autre fille pour se joindre à elles. Mon nouvel ami me servit du thé et un délicieux gâteau juif confectionné par sa mère. Et il me parla de diverses personnes que je pourrais rencontrer, des activités, des anarchistes yiddish et d'autres sujets intéressants. J'étais reconnaissante envers mon hôte, plus pour sa sollicitude amicale et sa camaraderie que pour le thé et le gâteau. J'oubliais l'amertume dans laquelle ma propre famille avait plongé mon âme par son accueil glacial. Et New York cessa d'être aussi monstrueuse qu'elle m'était apparue pendant les interminables heures de marche dans le Bowery. Plus tard, Solotaroff m'emmena au Café Saks dans Suffolk Street, en m'expliquant que c'était le quartier général des radicaux, des socialistes et des anarchistes de l'East Side, ainsi que des jeunes écrivains et poètes yiddish. Tout le monde se réunit ici. Les sœurs Minkin s'y trouveront sans doute aussi, me dit-il. Pour quelqu'un qui venait de quitter la monotonie d'une ville provinciale comme Rochester et dont les nerfs étaient à vif après une nuit de voyage dans un wagon mal aéré, le bruit et l'agitation qui régnaient chez Saks n'étaient assurément pas très apaisants. L'endroit, qui ne comportait que deux pièces, était bondé. Tout le monde discutait, gesticulait et tous, rivalisant les uns avec les autres, se disputaient en yiddish et en russe. Cet étrange tohu-bohu faillit me submerger. Mon compagnon repéra les deux sœurs à une table et me les présenta. Elles s'appelaient Anna et Hélène Minkin. C'étaient de jeunes ouvrières, juives russes. Anna, l'aînée, avait environ mon âge. Hélène, elle, avait peut-être 18 ans. Nous arrivâmes rapidement à un accord concernant mon hébergement chez elle, ce qui mit fin à mon anxiété et à mes incertitudes. J'avais un toit au-dessus de ma tête. J'avais des amis. Je ne prêtais plus attention au vacarme. Je commençais à respirer plus librement, à me sentir moins étrangère. Alors que nous étions tous les quatre en train de dîner et que Solotaroff m'indiquait les différentes personnes qui se trouvaient dans le café, j'entendis soudain une voix puissante commander « Un steak géant et une autre tasse de café !» J'avais si peu d'argent et tellement besoin de l'économiser que cette prodigalité apparente m'étonna. D'autant que, d'après Solotaroff, seuls des étudiants, écrivains et ouvriers pauvres fréquentaient le Café Saks. Je me demandais qui pouvait être cet audacieux et comment il pouvait se permettre un tel repas. « Qui est ce glouton ? » demandai-je. Solotaroff éclata de rire. C'est Alexandre Berkman. Il est capable de manger pour trois, mais il a rarement assez d'argent pour ça. Quand il en a, il vide le garde-manger de Saks. Je vais te le présenter. Notre repas terminé, plusieurs personnes vinrent à notre table pour parler avec Solotaroff. L'homme au steak géant continuait de s'en mettre plein la lampe, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Au moment où nous apprêtions à partir, il s'approcha. Et Solotaroff me le présenta. C'était un tout jeune garçon, d'à peine 18 ans, mais il avait un cou et une poitrine de géant. Il était doté d'une mâchoire puissante, que ses lèvres charnues mettaient encore plus en valeur. Son visage paraissait presque austère, n'était son front haut, pensif, et ses yeux intelligents. Un jeune homme résolu, pensais-je. Peu de temps après, Berkman s'adressa à moi. « Johann Most donne une conférence ce soir. Voulez-vous venir avec moi l'écouter ?»« C'est extraordinaire, me dis-je, que dès mon premier jour à New York, j'ai la chance de voir de mes propres yeux et d'entendre cet homme brûlant de passion que la presse de Rochester présentait comme le diable personnifié, un criminel, un démon sanguinaire. » J'avais prévu de rendre visite à Most plus tard au siège de son journal, mais maintenant que l'occasion se présentait d'une manière si inattendue, j'avais le sentiment que quelque chose de merveilleux était sur le point d'arriver, quelque chose qui allait décider du cours de ma vie. Sur le chemin de la salle de réunion, J'étais trop absorbée dans mes pensées pour suivre la conversation de Berkman avec les sœurs Minkin. Soudain, je trébuchais. Je serais tombée si Berkman ne m'avait pas agrippée par le bras et relevée. « Je vous ai sauvé la vie », me dit-il en plaisantant. « J'espère pouvoir un jour sauver la vôtre », répondis-je aussitôt. La réunion avait lieu dans une petite salle, à l'arrière d'un bar qu'il fallait traverser pour y accéder. Une foule d'Allemands qui buvaient, fumaient et discutaient s'y trouvaient. Peu après, Johann Most arriva. Au premier abord, il m'inspira de la répulsion. De taille moyenne, il avait une grosse tête couronnée d'une broussaille de cheveux grisonnants. Son visage était difforme, le résultat probable d'un déboîtement du côté gauche de sa mâchoire. Seul son regard aux yeux bleus et sympathiques a été apaisant. Son discours fut une dénonciation virulente des conditions de vie et de travail en Amérique, une satire mordante contre l'injustice et la brutalité des pouvoirs dominants, une tirade passionnée contre les responsables de la tragédie de Haymarket et de l'exécution des anarchistes de Chicago en novembre 1887. Il s'exprimait avec éloquence et dans un langage imagé. Sa difformité disparaissait alors comme par magie et l'on oubliait son physique ingrat. Il semblait tout d'un coup habité par une sorte de puissance primitive, transmettant haine et amour, force et inspiration. L'effet produit par le débit rapide de son discours, la musique de sa voix et son esprit pétillant était irrésistible. Il m'émut jusqu'au plus profond de moi-même. Entraîné par la foule qui se précipitait vers la tribune, je me trouvai soudain devant Most. Berkman était près de moi et me présenta. Mais l'excitation et la nervosité me laissèrent sans voix. J'étais submergée par le tumulte d'émotions que le discours de Most avait éveillé en moi. Je ne pus dormir cette nuit-là. Je vivais à nouveau les événements de 1887. 21 mois s'étaient écoulés depuis ce vendredi noir du 11 novembre, jour du martyr de ces hommes de Chicago. Et pourtant, j'en revoyais clairement chaque détail qui m'affectait comme si cela était arrivé hier. Avec ma sœur aînée Elena, nous avions commencé à nous intéresser à leur sort au moment de leur procès. Le parti pris évident des articles publiés dans les journaux de Rochester nous agaçait, nous troublait et nous bouleversait. Devant la violence de la presse, la dénonciation acharnée des accusés et les attaques contre l'ensemble des étrangers, nous devînmes totalement solidaires des victimes de Haymarket. À Rochester, nous avions appris l'existence d'un groupe socialiste allemand qui se réunissait le dimanche au Germania Hall. Nous commençâmes à assister aux réunions dans cette salle. Elena à quelques occasions seulement et moi régulièrement. Les séances étaient en général sans intérêt, mais elles permettaient d'échapper à la grisaille de ma vie à Rochester. Là-bas, au moins, on entendait autre chose que les éternelles histoires d'argent et d'affaires, et l'on rencontrait des gens qui avaient de l'esprit et des idées. Un dimanche, on apprit que Johanna Gray, une célèbre oratrice socialiste de New York, donnait une conférence sur le procès en cours à Chicago. Le jour en question, je fus la première sur place. L'immense salle était pleine à craquer d'hommes et de femmes survoltés, tandis que des policiers étaient postés le long des murs. C'était la toute première fois que j'assistais à un meeting aussi important. J'avais vu des gendarmes à Saint-Pétersbourg disperser des petits rassemblements d'étudiants, mais que des policiers armés de longues matraques puissent s'attaquer à un rassemblement qui n'avait provoqué aucun désordre, et ce, dans un pays où était garantie la liberté d'expression, me plongea dans la consternation et me révolta. Peu après, le président de séance annonça l'oratrice. C'était une femme d'une bonne trentaine d'années, le visage pâle et l'air ascétique, avec de grands yeux lumineux. Elle parlait avec sérieux, d'une voix vibrante d'intensité. J'étais captivée. J'oubliais la police, l'auditoire et tout ce qui m'entourait. Je n'avais conscience que de cette femme frêle, vêtue de noir, qui lançait un réquisitoire passionné contre les forces qui allaient bientôt détruire 8 vies humaines. Tout son discours porta sur les événements dramatiques de Chicago. En premier lieu, elle exposa le contexte historique du procès. Elle parla des grèves qui avaient éclaté à travers le pays en 1890 pour revendiquer la journée de travail de 8 heures. Chicago était au centre de ce mouvement. Et c'est dans cette ville que la lutte s'intensifia et s'envenima entre les travailleurs et les patrons. La police attaqua une réunion de grévistes de McCormick Harvester Company. Des hommes et des femmes essuyèrent des coups et il y eut plusieurs morts. Pour protester contre cet acte de violence, un appel fut lancé pour un rassemblement de masse. Le 4 mai, la foule réunie sur High Market Square écouta des interventions d'Albert Parsons, d'Auguste Spice, Adolf Fischer et d'autres dans une ambiance calme et ordonnée. Ce qu'attesta d'ailleurs le maire de Chicago, Carter Harrison, venu assister à la réunion pour voir ce qui s'y passait. Il repartit satisfait et en informa le commissaire de quartier. Puis le ciel se couvrit. Une pluie fine se mit à tomber et les participants commencèrent à se disperser. Il ne restait plus qu'une poignée de personnes pour écouter l'un des derniers orateurs. Soudain, le commissaire Ward, accompagné d'importantes forces de police, entra sur la place. Il ordonna la dispersion immédiate du rassemblement. « Cette réunion se déroule dans le calme », lui répondit le président de l'Assemblée. Aussitôt, la police chargea la foule en matraquant sans merci. À ce moment précis, un objet vola au-dessus des têtes comme un éclair avant d'exploser, tuant de nombreux policiers et en blessant une vingtaine. L'identité du véritable coupable ne fut jamais établie et de toute évidence, les autorités firent peu d'efforts pour le découvrir. Bien au contraire, il fut immédiatement ordonné d'arrêter tous les orateurs de High Market, de même que d'autres anarchistes importants. L'ensemble de la presse et de la bourgeoisie de Chicago, ainsi que du pays tout entier, se mit à réclamer le sang des prisonniers. La police mena une véritable campagne de terreur avec l'appui moral et financier du comité des citoyens qui comptait faire avancer ses desseins meurtriers, en finir avec les anarchistes. Les histoires atroces, propagées par la presse à l'encontre des meneurs de la grève, agitèrent l'opinion au point de rendre impossible tout procès équitable. Et de fait, celui-ci se révéla la plus grande machination de l'histoire des États-Unis. Les membres du jury furent sélectionnés de manière à obtenir une condamnation. Le procureur déclara en audience publique qu'il s'agissait d'un procès non seulement contre les hommes inculpés, mais aussi contre l'anarchie, qu'il fallait définitivement éliminer. Les accusations réitérées du juge en plein tribunal montèrent le jury contre les prisonniers. Les témoins étaient contraints par la violence ou par la subornation. C'est ainsi que 8 hommes innocents furent condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis et qui leur était complètement étranger. L'excitation qui régnait dans l'opinion publique et plus généralement les préjugés contre les anarchistes, associés à l'opposition violente des patrons au mouvement pour la journée de 8 heures, créèrent une atmosphère favorable à l'assassinat judiciaire des anarchistes de Chicago. 5 d'entre eux, Albert Parsons, Auguste Spice, Louis Ling, Adolf Fischer et George Engel furent condamnés à la pendaison. Michael Schwab et Samuel Fielden à la prison à vie et Nib à 15 ans de détention. Le sang innocent des martyrs de High Market appelait la vengeance. À la fin du discours de Gray, j'étais convaincue de ce que j'avais pressenti depuis le début. Les hommes de Chicago étaient innocents. On les condamnait à mort pour leur idéal. Mais quel était-il ? Johanna Gray qualifia Parsons, Spice, Ling et les autres de socialistes. Mais j'ignorais la signification réelle du mot socialisme. Les explications des orateurs que j'avais entendues jusqu'alors me paraissaient plates et mécanistes. Quant aux journaux, ils appelaient ces hommes des anarchistes, des lanceurs de bombes. C'était quoi au juste l'anarchisme ? Je ne savais qu'en penser. Mais le temps me manquait pour y réfléchir davantage. La foule sortit et je me levai. Gray, la présidente de séance et un groupe d'amis se tenaient toujours sur l'estrade. Me tournant vers eux, je vis Gray qui me faisait signe. Je fus très surprise. Mon cœur se mit à battre violemment. Mes pieds étaient de plomb. Lorsque je m'approchai d'elle, elle me prit par la main et me dit « Je n'ai encore jamais vu un visage qui reflète un tel tumulte d'émotions que le vôtre. Vous devez ressentir de tout votre être la tragédie qui se prépare. Connaissez-vous ces hommes ?» Je répondis d'une voix tremblante. « Malheureusement non, mais ce procès me touche. » Dans chaque fibre de mon corps. Et quand je vous ai entendu parler, c'était comme si je les connaissais. » Elle mit sa main sur mon épaule. « J'ai l'impression que vous allez les connaître mieux et que leur cause deviendra la vôtre quand vous aurez étudié leur idéal. » Je rentrai chez moi à pied, comme dans un rêve. Ma sœur Elena dormait déjà, mais j'avais trop envie de partager avec elle ce qui m'était arrivé. Je la réveillais et lui racontait toute l'histoire, lui livrant un compte-rendu presque mot pour mot du discours de l'oratrice. J'avais sans doute utilisé un ton très dramatique car Elena s'exclama. « La prochaine fois qu'on me parlera de ma petite sœur, on va me dire qu'elle aussi, c'est une dangereuse anarchiste. » Plusieurs semaines après, j'eus l'occasion de rendre visite à une famille allemande que je connaissais. Je les trouvais en état de grande excitation. Une personne de New York leur avait envoyé dit Freiheit. Il était rempli de nouvelles à propos des événements de Chicago. Le langage employé me coupa littéralement le souffle tant il se démarquait de ce que j'avais entendu aux réunions socialistes et même lors du discours de Johanna Gray. C'était comme une éruption volcanique, crachant des flammes de dérision, de mépris et de défi. Il soufflait une haine profonde des pouvoirs qui étaient en train de préparer le crime de Chicago. Je commençais à lire Die Freiheit régulièrement. Je commandais les livres annoncés dans le journal et je dévorais chaque ligne de ce que je pouvais trouver sur l'anarchisme, chaque mot sur ces hommes, leur vie, leur travail. Je découvris ainsi leur prise de position héroïque et leur extraordinaire défense pendant le procès. Un nouveau monde s'ouvrit devant moi. Se produisit alors la chose effroyable que tout le monde redoutait et espérait ne pas voir arriver. Des éditions spéciales des journaux de Rochester apportèrent la nouvelle. Les anarchistes de Chicago avaient été pendus. Elena et moi nous fûmes effondrés. Ma sœur, bouleversée par ce choc, ne put que se tordre les mains et pleurer en silence. J'étais dans un état d'étourdissement, envahie d'une sensation de torpeur qui me rendait incapable de verser une seule larme. Dans la soirée, nous allâmes dans la maison de notre père. Tout le monde parlait des événements de Chicago. Cette perte que je vivais intimement m'absorbait complètement. C'est alors que j'entendis le rire vulgaire d'une femme. De sa voix stridente, elle railla. « Pourquoi toutes ces lamentations ? Ces hommes étaient des assassins. On a bien fait de les pendre. » D'un bond, je lui sautai à la gorge. Puis, je sentis qu'on me tirait en arrière. Et quelqu'un dit « Cette enfant est devenue folle !» Je me dégageai d'un mouvement brusque, saisis un pichet d'eau sur la table et le lançai de toutes mes forces au visage de cette femme. « hors d'ici ou je vous tue !» m'écriai-je. La femme, terrifiée, se précipita vers la porte et je m'effondrai en larmes sur le sol. On me mit au lit et je sombrai rapidement dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me réveillais comme si je sortais d'une longue maladie, enfin délivrée de l'état de paralysie et de dépression provoqué par ces semaines insupportables d'attente et par cette fin épouvantable. Je sentis très distinctement que quelque chose de nouveau et de merveilleux venait de naître en moi. Un grand idéal, une conviction ardente, une ferme détermination de me dédier à la mémoire de mes camarades martyrs, d'embrasser leur cause, de faire connaître au monde leur vie magnifique et leur mort héroïque. Johanna Gray ne s'était sans doute pas rendue à quel point ses propos avaient été prophétiques. Ma décision était prise, j'irai à New York pour rencontrer Johann Most. Il m'aiderait à me préparer à ma nouvelle mission. Mais comment mon mari et mes parents allaient-ils réagir? J'étais mariée depuis 18 mois seulement. Ce n'était pas un mariage heureux. J'avais conscience, presque depuis le début de notre union, que mon mari et moi avions des vues complètement opposées. Nous n'avions rien en commun et aucune entente sexuelle. Cette expérience, comme tout ce que j'avais vécu depuis mon arrivée en Amérique, s'était révélée on ne peut plus décevante. L'Amérique, terre de la liberté et patrie des braves. Quelle farce cela me semblait maintenant. Pourtant, je m'étais bagarrée durement avec mon père pour qu'il me laisse partir avec Elena. J'avais fini par gagner la bataille et à la fin décembre 1885, ma sœur et moi avions quitté Saint-Pétersbourg pour Hambourg, où nous avions embarqué pour la Terre Promise, à bord du vapeur Elbe. Notre sœur Léna nous avait précédés de quelques années. Elle s'était mariée et vivait à Rochester. Elle n'avait cessé d'écrire à Elena pour l'inviter à venir chez elle, car elle se sentait seule. Elena avait finalement décidé de la rejoindre, mais je ne pouvais pas supporter la pensée d'être séparée de celle qui comptait pour moi plus encore que ma mère. Elena aussi détestait l'idée de me quitter. Elle connaissait les rapports très conflictuels qui existaient entre père et moi. Elle proposa de payer mon billet, mais père refusait de consentir à mon départ. J'implorais, suppliais, pleurais. J'allais jusqu'à menacer de me jeter dans la Neva. Et enfin, il céda. Je quittai la maison, sans aucun regret, avec 25 roubles en poche. Tout ce que le vieux avait accepté de me donner. Aussi loin que je me rappelle, l'ambiance dans la maison m'étouffait et la présence de mon père me terrifiait. Ma mère, bien que moins violente avec les enfants, ne nous avait jamais manifesté beaucoup de tendresse. C'était toujours Elena qui m'apportait de l'affection, la seule qui me donnait un peu de joie, qui prenait toujours tout sur elle à la place des autres enfants et recevait bien des coups destinés à mon frère et à moi-même. Maintenant que nous étions enfin ensemble, personne n'allait nous séparer. Nous voyageâmes sur l'entrepont, là où les passagers étaient entassés comme du bétail. J'étais terrifiée et fascinée par mon premier contact avec la mer. Le sentiment de liberté, d'être loin de la maison, la beauté et l'émerveillement devant l'étendue infinie avec ses humeurs si changeantes, et l'impatience de découvrir ce nouveau monde et ce qu'il avait à m'offrir éveillaient mon imagination et me fouettaient le sang. Je me souviens très précisément du dernier jour de notre voyage. Tout le monde se trouvait sur le pont. Elena et moi étions serrés l'une contre l'autre, éblouis par la vue du port et de la statue de la liberté émergeant soudain de la brume. Elle était là, enfin, symbole d'espoir, de liberté, de tous les possibles. Elle tenait sa torche bien haut pour éclairer le chemin qui conduisait à ce pays libre, terre d'asile pour les opprimés de tous les pays. Nous aussi, Elena et moi, allions trouver notre place au sein du cœur généreux de l'Amérique. Notre morale était au plus haut, nos yeux se remplirent de larmes. Des voix bourrues brisèrent notre rêverie. Nous fûmes soudain entourés par des gens qui gesticulaient, des hommes en colère, des femmes hystériques, des enfants braillards. Des gardes nous poussèrent brutalement, de ci, de là, hurlèrent l'ordre de nous tenir prêts pour le transfert à Castle Garden, centre de tri des immigrants. La scène à Castle Garden fut épouvantable, l'ambiance rude et chargée d'hostilité. Aucun visage d'officiel sur lequel lire de la compassion. Rien de prévu pour le confort des nouveaux arrivants, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Le premier jour sur le sol américain fut un choc brutal. Nous n'avions qu'un désir, fuir cet horrible lieu. On nous avait dit que Rochester était la cité fleurie de New York. Or, nous arrivâmes par un matin de janvier, triste et froid. Ma sœur, Léna, enceinte de son premier enfant, et tante Rachel, nous accueillirent. Les pièces de la maison de Léna étaient petites, mais claires et impeccables. La chambre préparée pour Elena et moi était pleine de fleurs. Il y eut des va-et-vient incessants tout au long de la journée. Des parents que je ne connaissais pas, des amis de ma sœur et de son mari, des voisins. Tous voulaient nous voir, entendre parler du pays. C'étaient des Juifs qui avaient beaucoup souffert en Russie. Certains avaient même vécu des pogroms. La vie dans ce nouveau pays était dure, disaient-ils. Tous conservaient une nostalgie de ce chez-eux qui ne l'avait jamais été. Parmi les visiteurs, certains avaient réussi. Un homme se vanta que ses 6 enfants travaillaient. Ils vendaient des journaux ou ciraient des chaussures. Tout le monde se préoccupait de ce que nous allions faire. Un type, d'aspect grossier, fixa son attention sur moi. Il ne cessa de me dévisager toute la soirée, me scrutant de haut en bas. Il vint même vers moi et chercha à me palper les bras. J'avais l'impression d'être exposé nu sur la place du marché. J'étais outré, mais je ne voulais pas offenser les amis de ma sœur. Je me sentis affreusement seule et quittai précipitamment la pièce. Une vague de nostalgie pour tout ce que j'avais laissé derrière moi, Saint-Pétersbourg, ma Neva bien-aimée, mes livres, la musique, me submergea. Tout à coup, je pris conscience de voix fortes qui provenaient de la pièce d'à côté. J'entendis les paroles de l'homme qui m'avait rendue furieuse. « Je peux lui trouver un travail chez Garçon et Meilleur. Son salaire sera bas, mais elle trouvera rapidement un gars avec qui se marier. Une fille si bien en chair, avec son teint rose et ses yeux bleus, n'aura pas besoin de travailler longtemps. N'importe quel homme va l'accueillir et la couvrir de soie et de diamants. » Je pensais à père. Il avait essayé désespérément de me marier à l'âge de 15 ans. J'avais protesté, le suppliant de me permettre de poursuivre mes études. Furieux, il avait jeté ma grammaire française dans le feu, en criant « Il est inutile pour les filles de trop apprendre. La fille d'un juif a seulement besoin de savoir préparer le Gefüllte Fisch, découper menu les nouilles et donner à son homme plein d'enfants. » Je refusais de l'écouter. Je voulais étudier, connaître la vie, voyager. D'ailleurs, si je me mariais, « ce ne serait que par amour », avais-je soutenu vigoureusement. Au fond, c'était pour échapper à ces projets de mon père que j'avais insisté pour partir en Amérique. Et maintenant, même dans ce nouveau pays, j'étais poursuivie par ces tentatives de me marier. J'étais bien décidée à ne pas me laisser acheter. J'irais travailler. J'avais 11 ans quand ma sœur Léna était partie pour l'Amérique. Je passais habituellement beaucoup de temps chez ma grand-mère à Kovno, tandis que ma famille vivait à Popelane. Léna s'était toujours montrée hostile envers moi et j'en découvris inopinément la raison. À l'époque, je ne devais pas avoir plus de 6 ans. Léna avait 2 ans de plus. Nous étions en train de jouer aux billes et je ne sais pas pourquoi elle trouvait que je gagnais trop souvent. Elle se mit dans une rage folle, me donna un violent coup de pied et cria « Tu es exactement comme ton père, lui aussi il nous a trompés, il nous a volé l'argent que nous avait laissé notre père à nous. Je te déteste, tu n'es pas ma sœur. » Cette explosion de colère me pétrifia. Je restai un moment cloué au sol, regardant fixement Léna en silence. Puis je fondis en larmes. Je courus voir ma sœur Léna, la confidente de tous mes chagrins d'enfant. J'exigeais qu'elle m'explique pourquoi Léna avait dit que mon père l'avait volée et pourquoi je n'étais pas sa sœur. Comme à son habitude, Léna me prit dans ses bras et essaya de me réconforter tout en minimisant les paroles de Léna. J'allais ensuite voir ma mère qui m'expliqua qu'il y avait eu un autre père, celui d'Héléna et de Léna. Il était mort jeune et mère avait choisi l'homme qui était mon père et celui de mon petit frère. Elle me dit que mon père était aussi celui d'Héléna et de Léna, même si elles n'étaient que ses belles-filles. Il est vrai, ajouta-t-elle, que père avait utilisé l'argent laissé aux deux filles. Il l'avait investi dans une affaire et avait fait faillite. Il n'avait voulu que le bien de nous tous. Mais les mots de ma mère n'apaisèrent pas ma douleur. Père n'avait pas le droit d'utiliser cet argent, criai-je. Elles sont orphelines, c'est un péché de voler des orphelins. Je voudrais être adulte pour leur rendre cet argent. Oui, je dois leur rembourser, je dois racheter le péché de père. Ma nourrice allemande m'avait dit un jour qu'une personne coupable de voler des orphelins n'irait jamais au paradis. Je ne comprenais pas très bien ce qu'était cet endroit. Ma famille, qui suivait les rites juifs et allait à la synagogue tous les samedis et les jours fériés, nous parlait rarement de religion. C'est par la nourrice, ainsi que par nos domestiques, des paysans russes, que j'avais pu me faire une idée de Dieu et du diable, du péché et du châtiment. J'étais persuadée que père serait puni s'il ne remboursait pas sa dette. 11 ans s'étaient écoulés depuis cet incident. J'avais oublié depuis longtemps la peine que Léna m'avait faite, mais je n'avais jamais éprouvé pour elle la grande affection que je portais à ma chère Elena. Tout au long du voyage vers l'Amérique, je m'étais inquiétée de savoir quels allaient être les sentiments de Léna à mon égard. Mais dès que je la vis, grosse de son premier enfant, avec son petit visage pâle et crispé, je sentis de la compassion pour elle, comme s'il n'y avait jamais eu d'ombre entre nous. Le lendemain de notre arrivée, nous restâmes toutes les trois ensemble. Léna nous raconta combien elle avait souffert de la solitude, combien nous lui avions manqué, ainsi que la famille. La vie avait été dure pour elle, d'abord en tant que domestique dans la maison de tante Rachel, et plus tard en tant qu'ouvrière en boutonnerie à l'usine de confection Stein. À présent, elle était très heureuse d'avoir enfin un vrai foyer et d'attendre un enfant. Elle ajouta « La vie est encore difficile. Mon mari gagne 12 dollars par semaine comme plombier zingueur. Il travaille sur les toits sous le soleil brûlant ou dans le vent froid. C'est toujours dangereux. Il a commencé à travailler à 8 ans à Berditchev en Russie et ne s'est jamais arrêté depuis. » De retour dans notre chambre, nous fûmes d'avis, Elena et moi, de chercher tout de suite du travail. Nous ne voulions pas alourdir le fardeau que portait déjà notre beau-frère. 12 dollars par semaine et un enfant en route. Quelques jours plus tard, Elena trouva un travail de retoucheuse de négatifs photos, ce qui avait été son métier en Russie. Je trouvais un emploi chez Garson et Meyer. Je cousais de lourds manteaux pendant 10h30 par jour pour 2,50 $ la semaine.